franceinter.fr.
Là, on est vraiment dans une phase de rupture. Il y a des jeunes qui nous considèrent comme des ennemis. Et peut-être malheureusement que certains policiers considèrent aussi les jeunes comme des ennemis, donc c'est pas le cas, il faudra dépasser ces clivages-là et puis revenir peut-être à une forme de police de proximité. Le problème c'est qu'on met des unités dans des quartiers qui sont destinés à l'origine au maintien de l'ordre, par exemple les CRS qui font très très bien leur métier. Par contre, on peut se poser de la question de savoir est-ce qu'ils ont une réelle efficacité dans les cités, est-ce qu'ils sont vraiment à leur place à faire de l'antidélinquance. C'est peut-être pas le cas. À mon avis, il faudrait mettre suffisamment de policiers dans les commissariats locaux, ceux qui croisent les jeunes au quotidien, qui savent à qui ils ont affaire. Ça va développer au respect, tout en sachant qu'il ne faut pas oublier que le policier, ce n'est pas un père de famille, ce n'est pas un éducateur, ce n'est pas un instituteur, c'est un petit peu tout ça, mais c'est surtout un policier. S'il constate une infraction, même s'il a un côté préventif, il a surtout un côté répressif. Donc il fera son métier, tout simplement.
Ils viennent, ils me contrôlent 3-4 fois par jour et tout. C'est relou.
Quand ils contrôlent, ils cherchent la merde. Ils demandent, ouais, il loue ça. De l'argent, il sort d'où? On a 20 euros dans la poche, ça sort d'où et tout. Je sais pas, ils prennent la tête, voilà.
Ils harcèlent, quoi. Ouais, ils harcèlent. Quand ils sentent que nous, on est agressifs, c'est directement, ils attrapent, ils appellent les renforts pour rien.
Ils viennent, ils nous fouillent, tout ça. Ils essayent de nous énerver un peu et tout. Et après, on s'énerve.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
S'exprimant en octobre 2006 sur France Inter, Pierrick Agostini, responsable d'une brigade anticriminalité, s'interrogeait ouvertement, bien qu'en termes diplomatiques, sur l'efficacité réelle d'une politique consistant à remplacer la police de proximité dans les quartiers dissensibles par des unités spécialisées dans la répression et le maintien de l'ordre. Un langage assez peu conforme à la doxa en vigueur depuis 2002 et l'arrivée place Beauvau d'un certain Nicolas Sarkozy. Depuis lors, face au discours sécuritaire dorénavant martelé et puissamment relayé par les médias, les protestations des habitants des cités et des quelques citoyens indignés pèsent peu. La parole d'un chercheur aura-t-elle plus d'écho? Pas sûr. Publié en octobre dernier au Seuil, le livre de l'anthropologue Didier Fassin, La force de l'ordre, résultat d'une immersion de 14 mois dans une BAC de banlieue, n'a suscité quasiment aucune réaction officielle. Peu d'articles, pas de débats dans les médias, aucune réaction du gouvernement, ni des policiers. Pourtant, son étude des méthodes, du langage et de l'efficacité de ces unités spécialisées dans la surveillance des zones urbaines sensibles avait de quoi permettre une véritable et nécessaire réflexion sur l'utilisation de la police dans notre République. Titulaire depuis 2 ans de la prestigieuse chaire Wolfenschön de sciences sociales à l'Institut d'études avancées de Princeton aux États-Unis, Didier Fassin est ce soir l'invité de l'Humeur Vagabonde.
Sur les plages magnifiques de la Corée du Nord, la gente féminine bronzée fait du sport. Le soldat Kim Il-sung sing et joue au ping-pong avec Yang Ming du MEDEF de la ville de Pyongyang. Un enfant se balade comme la Linéa. Il est de Bamako, Trévis ou Shibuya. C'est un enfant du monde du Vésuve ou VA, tanné par le soleil et pas les UVA. Le gosse défie les flânes du nord au sud. Écoute les conseils des sages qui disent au nord le sud. Il marche et vagabonde dans des contes d'Andersen. Se rêve à Copenhague dans les bras d'une Nina Hagen. Marche ou rêve. Amsterdam expose des œuvres d'art. Le corps
gosse devient l'abeille qui regarde son dard. Il porte Doc Martens comme Adeline le punk. Roule, colle et puis fume, chronique Haya et Skunk. Puis il fait de surplace tout en déambulant. Marche à contre-sens sur des tapis roulants. Il moonwalk en pensant aller de l'avant, puis s'assoit à l'envers sur un tapis volant. Près des plages magnifiques de la Corée du Nord, la junte militaire ne fait pas que du sport. Et ce sont des vraies balles, pas des balles de ping-pong. Pyongyang, c'est autre chose que bikini et bombe blonde. Marche ou crève,
crève.
Matériel pour la nuit particulier. On a coudière, on a tonfa, moyen lacrymogène, masque à gaz. Et ensuite on a aussi également des fusils mitrailleurs, des fusils à pompe pour les contrôles routiers.
Ah, vous êtes bien équipé quand même.
Ouais, le strict minimum, hein. Faut survivre. Ouais, allez.
Donc là on sort pour jusqu'à 6h30 et le chauffeur va où il veut. Hein. Sauf appel particulier sur Paris quoi.
5-6 bouteilles, 3 individus en fuite et une inscription.
Ouais, on vient de capter sur 43, apparemment sur secteur rue de Thionville, des individus qui préparaient des cocktails Molotov reçus. On va se rapprocher.
Les mecs contre le mur ! Les mecs contre le mur ! Parfait.
Non, c'est des gamins, c'est des gosses.
Ah, c'est des gosses, oui, c'est des gens.
Ils ont vu ça à la télé, ils veulent refaire pareil, c'est des gosses.
4 interpellés en tout. Cocktail et enfin c'est 10 engins incendiaires.
Il y a un de mes interpellés, il habite juste à côté.
C'est pas très élaboré comme dispositif. Le laboratoire verra ce qu'ils peuvent en tirer quoi.
On s'est déjà pris des engins de ce type, donc par expérience on a jugé utile de ne pas rentrer bêtement dans la rue et de leur courir après quoi. On a effectivement bien fait parce qu'on s'est en quelque sorte fait encercler par les individus. Donc si on était rentré dans la rue, je pense que ce serait tombé sur nous de tous les sens.
Extrait d'un reportage de Sébastien Le Génie avec la BAC du 19e arrondissement, diffusé sur Inter en novembre 2005. Ça doit vous rappeler des souvenirs, Didier Fassin, bonsoir.
Bonsoir.
Parce que novembre 2005, vous étiez vous-même immergé, on dirait embedded, si on était aux États-Unis, dans une unité de BAC, dans une cité sensible. Et cet armement que le chef de l'État vient d'autoriser son expansion pour des armes beaucoup plus lourdes, ça participe à la paramilitarisation de la police dont vous parlez à un moment dans votre livre.
Alors, on peut tous comprendre que le décès d'un policier dans des conditions tragiques, comme ça a été le cas il y a quelques jours, soit un événement qui suscite l'émotion, notamment parmi ses collègues, parmi ses proches. Il n'est pas certain que cette émotion ne soit pas mauvaise conseillère lorsqu'elle est mise en œuvre au niveau le plus haut de l'État. Et à cet égard, plutôt que cette émotion, on aimerait qu'il y ait une réflexion de fond sur les conditions de travail des policiers et les risques effectivement qu'ils prennent. Et à cet égard, je pense qu'on pourrait rappeler par exemple que au cours des dernières décennies, le nombre de policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions n'a cessé de diminuer de 4 fois en 40 ans, que la majorité, c'est-à-dire les 2/3 de ces décès sont provoqués par des accidents de la voie publique, des accidents de la route lors de poursuites, et que les homicides, qui sont du reste non pas provoqués par des jeunes, mais qui sont provoqués par de véritables délinquants et parfois criminels, ne représentent donc que 2 décès environ par an, ce qui est déjà bien sûr trop. Mais en tout cas, il y aurait une relativisation à faire. Et d'autre part, je crois que en termes de réponse par l'armement, on peut peut-être rappeler que des pays comme les États-Unis, où les policiers sont plus armés et où toute la population, du reste, a des accès aux armes à feu, sont des pays où la mortalité des policiers est bien plus élevée, alors qu'à l'inverse, des pays comme la Grande-Bretagne, où les policiers, en général, ne portent pas d'armes, eh bien, connaissent une mortalité policière plus faible. Autrement dit, si au lieu de réagir dans l'émotion, on avait une réflexion à partir des données dont on dispose, dont les policiers eux-mêmes, bien sûr, disposent, eh bien, on aurait peut-être une autre réponse que cette réponse sécuritaire qui repose sur la peur et sur potentiellement l'aggravation de cette situation.
Didier Fassin, vous venez d'évoquer la Grande-Bretagne et les États-Unis où les pratiques policières et la gestion politique de la police est différente. Mais ce n'est pas seulement sur ce terrain-là qu'il y a des différences. Vous le soulignez tout de suite dans les premières pages de votre livre. Vous avez été un chercheur autorisé à suivre des policiers en action et dans leur commissariat pendant 14 mois, autorisation accordée également par le ministère, mais qui s'est arrêté brutalement puisque vous ne vouliez pas cantonner votre étude qu'à une seule bague. Vous vouliez aller voir dans d'autres villes, éventuellement même en province, comment ça se passait. Là, vous avez été pratiquement le dernier chercheur autorisé. Vous parlez de fermeture au fur et à mesure que la politique sécuritaire se durcit, que le discours devient de plus en plus dur. En même temps, le ministère de l'Intérieur ferme tous les accès aux chercheurs, contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où régulièrement, après les émeutes, après les gros problèmes, on demande, les gens qui ont la responsabilité de gérer les policiers, demandent justement le concours des chercheurs.
Alors effectivement, après des événements graves, des émeutes notamment, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ont été mises en place des commissions parlementaires, ce qui n'a pas existé en France après les émeutes de 2005 ou de 2007, dont certaines des recommandations portaient justement sur une meilleure connaissance des interactions entre les forces de l'ordre et les habitants des quartiers dans lesquels se produisent ces troubles urbains. Et donc, il y a à la fois un déficit démocratique en termes de mobilisation du Parlement ou d'experts qui pourraient étudier ces questions et donner des recommandations, et déficit scientifique, côté de la connaissance plus approfondie qu'on peut avoir à travers ce que font les chercheurs. Alors, on peut dire que les chercheurs ne sont pas complètement interdits de travaux actuellement. Ils peuvent continuer, heureusement pour certains sociologues, à mener des entretiens, à réaliser des enquêtes, mais en tout cas, il n'est plus possible d'observer, comme je l'ai fait pendant une quinzaine de mois, le quotidien des policiers, ce qui se passe lorsqu'ils sortent de leur commissariat. Et vous insistiez à juste titre sur le fait que j'avais travaillé principalement avec une brigade anticriminalité, donc avec des policiers en civil qui constitue un petit peu le bras armé de cette politique d'intervention dans les quartiers populaires. Mais j'ai également suivi le travail qui n'est au fond pas si différent des policiers en tenue, qui d'ailleurs souvent se retrouvent sur les mêmes interventions et les mêmes faits.
Mais justement, il y a quand même une différence, et vous la soulignez, et d'ailleurs, les victimes, gardons un langage plus simple, les populations concernées par l'intervention des BAC ont une très claire connaissance de ce que représentent ces brigades anticriminalité. On va écouter la parole à ce propos de jeunes recueillis par Olivia Jesbert en octobre 2004. C'était à Damary-les-Lys et il parlait de la BAC.
La BAC, elle a été créée pourquoi ? Elle est basée sur le volontariat. C'est-à-dire, il ne sort pas de l'école de police et on lui dit « tu vas à la BAC ». Il sort de l'école de police et il dit « je veux aller à la BAC ». C'est pas pareil. C'est pour de l'action. C'est des voyous, quoi. C'est des voyous, il n'y a pas d'autre mot. Non, on ne dit pas qu'il faut plus de police. Il faut de la police. Ça doit être une police qui arrête les voleurs, qui arrête les dealers, qui arrête les violeurs et qui ne font pas aller emmerder les petits jeunes dans le bâtiment parce qu'ils sont en train de discuter de football. Parce qu'après, par exemple, un truc tout banal, après une soirée de Ligue des Champions, qu'est-ce que tu fais? Comme il disait, on ne peut pas fumer chez nous. On ne peut pas fumer une cigarette devant nos pères et nos parents. On ne va pas aller dans la chambre pour fumer une cigarette parce que ça va sentir. Qu'est-ce qu'on fait? On descend en bas, on discute en bas. On discute, Paris vient de prendre 2-0, Marseille vient de perdre, on discute, on polémique, on refait le monde. Contrôle d'identité. Comment se passe le contrôle d'identité? Outrage, rébellion. Comment tu veux qu'ils fassent confiance à la police? Ils ont peur de la police. Ils ont peur. La paranoïa, elle n'est pas de notre côté, elle est de leur côté à eux. Ils ont peur.
De côté? Non, jamais un flic sympa?
Non, il n'y a pas de flic sympa. Y a pas. Pour moi, le flic le plus sympa des sympas qui rentre, ils seront complices du silence. Il peut être le plus gentil du monde, il peut être le plus sympa du monde, il rentre dans la complicité du silence. C'est très très rare où il y a un flic qui dénonce les exactions de son commissariat. Ou s'il le fait, il faut voir la répression derrière qu'il subit.
Didier Fassin, il faut rappeler que les BAC ont été créés en 1971 essentiellement pour pratiquer des flagrants délits dans la criminalité et qu'ils ont été reconvertis, c'est que ces brigades ont été reconverties à la fin des années 90 pour devenir la police dédiée aux quartiers sensibles. Mais du coup, il y a effectivement ce que soulignait cet intervenant en disant que c'est un choix. Peu à peu, ces brigades sont devenues comme des brigades douées d'une certaine autonomie. Elles se recrutent par cooptation. Ceux qui les dirigent ont une assez grande autonomie. Vous les décrivez comme ça?
Alors effectivement, il y a une autonomie qui est plus grande de ces brigades que ce qu'on observe pour les autres unités d'intervention. Et le fait qu'elles soient par cooptation, et du reste pas à la sortie de l'école, il faut déjà avoir une certaine expérience qui généralement est au minimum de 2 ou 3 ans dans la police, pour pouvoir prétendre à entrer dans la BAC.
Mais il y a des critères, vous les avez remarqués. S'ils ne se sont pas dits, ils sont affichés dans la population, même des policiers.
Alors, je dirais qu'il y a des critères explicites, il y a des épreuves qui sont, et des tests qui sont passés, aussi bien sur un plan psychologique que sur un plan sportif. C'est relativement sommaire. On notera d'ailleurs qu'il n'y a pas de test particulier sur la dimension plus judiciaire du travail, ou en tout cas ce qui pourrait permettre une plus grande efficacité. Et d'ailleurs, un certain nombre de responsables, de chefs, se plaignent de ce manque de formation des membres de ces BAC, ce qui ensuite conduit à ce que souvent les personnes qui sont interpellées et présentées devant le juge ne peuvent pas être condamnés faute d'éléments suffisamment démonstratifs. Mais en tout cas, ces brigades constituent effectivement des unités qui sont très repérées par les habitants, et soulignons que c'est un paradoxe puisqu'elles sont en civil en principe pour être plus discrètes, et il n'y a pas plus connu dans les quartiers que, et souvent par leur prénom d'ailleurs, que les membres des BAC, leurs véhicules sont reconnus immédiatement, etc.
Il y a aussi pas de femmes, pas de noirs, pas d'arabes.
Alors, Ça dépend vraiment, et c'est ce que je voulais ajouter. On a entendu tout à l'heure un policier, je crois qu'il devait être un brigadier responsable d'une BAC en Seine-Saint-Denis, si j'ai bien entendu. D'abord, il faut souligner son courage de s'exprimer publiquement, de dire des choses aussi franchement sur l'hostilité réciproque qui se développe et qu'il déplore, sur l'inefficacité très souvent de ce type d'intervention, et en même temps l'honneur qu'il défend en disant on est là pour faire son métier. Ce qui veut bien dire qu'on peut avoir des BAC avec des modes d'intervention relativement différents en fonction notamment des chefs. Et si, comme vous l'avez dit, là où j'ai travaillé, il n'y avait pas de femmes et il n'y avait pas de personnes d'origine non européenne ou de gens de couleur. Dans plusieurs de ces des membres de la BAC avec lesquels j'ai travaillé me disaient que là où ils étaient auparavant, il y avait des femmes, ils avaient des copains, disaient-ils, arabes ou noirs, avec lesquels les relations étaient tout à fait bonnes. Donc il y a certainement des différences dans les bacs. Mais comme le disait également ce jeune, je crois, en tout cas cette personne qui parlait tout à l'heure, il y a des effets d'homogénéisation des modes d'intervention qui ne sont plus liés à qui sont individuellement les policiers et le fait qu'ils essayent ou non de bien faire leur travail, mais au poids de l'institution policière et surtout des politiques sécuritaires que cette institution policière est amenée à mettre en place. Et du coup, les policiers qui sont un petit peu comme les militaires, des gens qui obéissent, qui obéissent aux ordres de leurs supérieurs, eh bien, sont tenus de mettre en œuvre des politiques qui conviennent très bien à certains, mais qui déplaisent aussi à d'autres.
C'est vrai qu'il y a un discours très marqué, notamment depuis 2002, un discours qui stigmatise certaines populations, qui les traite de racailles, qui dit qu'on va les nettoyer au Karcher. Et ça peut encourager, en tout cas vous, Didier Fassin, vous l'avez constaté dans la BAC où vous avez travaillé, il y a un discours que l'on peut appeler tout à fait raciste. On va écouter la vie des jeunes contrôlés.
Pendant le ramadan, il y a eu des types d'émeutes. On est tranquille dans les cafés, ils viennent et ils nous emmerdent pour rien, ils contrôlent l'identité pour rien. Et pourtant, ils nous connaissent. Ils nous tirent dessus avec des flashballs. Alors, tellement on est en colère, on les insulte et puis voilà.
Moi, plein de fois, quand j'étais jeune, j'ai frôlé la mort à cause de la police. On roule sans casque, juste là, il y a une plaine, il n'y a que de l'herbe, on fait de mal à personne. On roule en moto, ils rentrent dans le champ comme ça, ils essayent de nous taper avec le pare-choc de la voiture. C'est super dangereux ça. Vous imaginez monsieur, les bavures. On en a marre des bavures, ça fait au moins 15 ans que ça existe. Les bavures policières. Quand on va en garde à vue, à 12-13 ans, ils nous considéraient déjà comme des hommes. Si on a fait un délit, ils nous pardonnent pas. On nous parle mal, on nous frappe dans les gardes à vue, on nous étrangle. Et voilà, nous on n'a pas confiance en la police, c'est des ordures. Et c'est des gros racistes, surtout dans le nord de la France, chez nous. Des fois, ils ouvrent juste la fenêtre ici, juste là au col vert, ils viennent, ils font un tour du parking ici. Ils nous insultent, ils nous provoquent.
C'est vu aussi, on a déjà vu des doigts d'honneur. Hier encore, ils sont venus à la cité, là, derrière, et ils sont passés 10 fois devant les jeunes. Ils mettaient les lampes. Ils attendaient qu'une chose, quelqu'un jette une pierre pour appeler les renforts qui étaient cachés pas loin et pour ramasser. Pour le en fait, plaisir, c'est un jeu.
C'est quand ils s'ennuient, ils veulent se battre, voilà. Ils veulent casser, broyer du nègre.
Un témoignage recueilli en janvier 2008 dans le quartier du Pigeonnier à Amiens. On entend parler de racisme. Alors, on l'entend des deux côtés, parce que vous l'avez recueilli vous-même, Didier Fassin. Les policiers disent « les jeunes sont racistes envers nous ». Les jeunes disent « les policiers sont racistes ». Alors, il y a aussi des distinctions que vous faites entre discrimination et racisme. Vous dites qu'il y a un discours raciste. On les traite, les policiers emploient les termes de bâtards. Ils disent qu'ils vont dans la jungle, ils parlent d'ennemis. Ils ont des termes parfois beaucoup plus violents. Mais ils ont le sentiment, c'est ce que vous relevez, que c'est normal en fait, que ça n'a rien à voir avec le racisme, qu'ils désignent ainsi un ennemi qu'on leur a appris à combattre.
Alors, il y a effectivement une banalisation de l'usage de certains termes qui racialisent et parfois sont racistes, ce qui ne veut pas dire bien sûr que tous les policiers soient racistes, mais au fond, ce que j'ai essayé de faire, et comme d'autres l'ont essayé avant moi dans d'autres pays, c'est de distinguer ce que sont des propos racistes et ce que sont des pratiques discriminatoires. En effet, on peut très bien imaginer, et du reste, ça, c'est démontré dans certains cas, que l'on puisse avoir entre soi des commentaires racistes et qu'en même temps, il y ait une certaine manière de faire son métier, de vouloir défendre des valeurs plus républicaines et donc de ne pas pratiquer de discrimination. Or, ce que, du reste, les témoignages que vous venez de nous faire entendre montrent bien, et ce que les enquêtes quantitatives qui ont été faites et qualitatives que j'ai faites moi-même, ce que tout cela montre, c'est qu'il y a, bien sûr, deux choses. D'abord, des contrôles qui sont beaucoup plus fréquents en fonction de critères qui sont à la fois des critères sociaux, des milieux populaires, territoriaux, ces quartiers, et ethnico-raciaux, la couleur de peau, l'aspect extérieur des personnes. Donc ça a été démontré statistiquement. Mais ce que disent ces jeunes, c'est un peu plus que ça. Et ça n'a pas été suffisamment exploré. C'est que, certes, ils sont contrôlés souvent, mais ils sont contrôlés d'une façon particulière. Ils parlent de la manière dont ils sont tutoyés, dont ils sont rudoyés, dont ils sont bousculés, provoqués, disent-ils. Et c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte dans ces différences de traitement. Et je me souviens d'un commissaire dans une discussion que nous avions, mentionnait le tutoiement comme quelque chose qu'il trouvait insupportable chez ses policiers et notamment ceux de la BAC. Et ma première réaction était d'étonnement en me disant « le tutoiement, c'est vraiment tellement rien du tout par rapport à tout ce que je peux constater au quotidien dans ces interactions entre les policiers et des jeunes. » Et au fond, en y repensant après, je me suis dit qu'il avait raison parce que ce glissement
c'est
la porte d'entrée à un traitement qu'on ne se permettrait pas avec quelqu'un que l'on vous voirait. Et donc, je crois qu'il y a une attention à faire aux détails et à la manière dont, d'ailleurs, certains policiers, c'est plutôt rare, mais dans ce que j'ai vu en tout cas, certains policiers utilisent le vouvoiement avec des jeunes. Et donc, il y a vraiment, quand on pense discrimination, il faut vraiment distinguer les deux choses et voir quelles sont en fait que ces jeunes souffrent des deux à la fois, c'est-à-dire d'être contrôlés plus fréquemment en raison de leur apparence et en même temps d'être traités différemment.
Mais ce qui est surtout assez désespérant aussi, Didier Fassin, quand on lit ce livre, c'est toutes ces constatations, mais c'est l'inefficacité absolue de cette politique agressive. C'est-à-dire que vous décrivez ces patrouilles de jour ou de nuit qui tournent en rond en s'ennuyant, qui attendent désespérément qu'on leur signale un incident. Et du coup, le moindre incident devient quelque chose d'équivalent au casse du siècle. Toutes les voitures se précipitent et pour une altercation entre deux jeunes, qui souvent est terminée quand les policiers arrivent, on voit arriver 5-6 voitures, des policiers casqués, des matraques à la main. Et du coup, comme si la montée d'adrénaline justifiait ensuite le traitement de l'incident, tout le monde est mis dans le même panier. C'est-à-dire qu'en gros, on revient à la racialisation, du moment qu'on n'est pas européen et bien habillé, on est suspect qu'on soit éducateur, témoin, voisin qui a assisté à l'altercation. Vous décrivez des scènes incroyables où on embarque tout le monde et où beaucoup se retrouvent même inculpés d'outrage et de rébellion s'ils ont protesté.
Alors effectivement, il y a cette inefficacité dont vous parlez, encore une fois, qui n'est pas forcément liée à une incompétence des policiers, mais d'abord à leur capacité d'avoir accès à des faits qui relèvent du flagrant délit, comme c'est leur mission en principe. Et l'on sait bien que lorsqu'il y a un cambriolage, eh bien, le signalement est souvent fait alors que le cambrioleur est déjà parti. Lorsque un téléphone portable a été dérobé, eh bien, les policiers, lorsqu'ils arrivent, même s'ils vont très vite, ne vont pas trouver le voleur. Donc, qu'il y ait cette relative inefficacité du flagrant délit. Bien sûr, il y a je raconte des scènes dans lesquelles des interventions portent leurs fruits permettent de prendre véritablement des délinquants. Mais cette inefficacité tient au mode d'intervention. Et du reste, ça n'est pas quelque chose qui est particulier à la France. Des études qui ont été réalisées aux États-Unis et dans d'autres pays montrent que le travail de patrouille, lorsqu'il est en réponse à des habitants, donne certains résultats. Lorsqu'il va au contact de la population, c'est-à-dire qu'il est proactif et sous cette forme notamment de contrôle permanent, n'apporte pas des meilleurs résultats en termes d'efficacité, c'est-à-dire ni en termes de diminution de la délinquance, ni en termes d'augmentation du sentiment de sécurité des habitants. Donc il y a effectivement ce décalage dont les policiers sont les premiers à souffrir ou en tout cas à se plaindre parce que effectivement beaucoup d'entre eux se sont engagés, disent-ils au moins, pour dans ce métier pour attraper des voyous et des voleurs, comme le disait tout à l'heure ce jeune, et pas pour aller ennuyer contrôler, fouiller, sans entrer dans des rapports brutaux avec des jeunes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, souvent par extension avec des habitants qui auront eu le malheur d'être choqués par une scène, qui seront intervenus et qui seront traités de la même manière.
Vous parlez même à cette occasion de punition collective, c'est-à-dire comme si justement parce que les policiers n'arrivaient pas à mettre la main sur de vrais malfaiteurs et n'arrivaient pas, même pas à attraper le petit délinquant qui vient de voler un portefeuille ou un portable, eh bien, on va tourner pendant quelques minutes et on va prendre les premiers jeunes qui vont se présenter, qui auront un jogging, peu importe qu'ils soient blancs alors qu'on a décrit un délinquant avec un jogging gris. On va les attraper et même parfois, on va pénétrer en force dans tout un immeuble et défoncer les portes d'appartements au milieu de la nuit parce qu'on a vu une silhouette qui rentrait dans une porte d'immeuble. La punition collective, c'est quand même, ça implique immédiatement un autre regard sur l'action qu'on demande à la police.
Alors, en fait, dans ce que vous venez de dire, il y a deux phénomènes. Un premier phénomène qui est de prendre un individu pour le groupe. C'est un petit peu dans la fable du loup et de l'agneau de La Fontaine, c'est « si ce n'est toi, c'est donc ton frère ». Et donc, on en prend un pour le groupe et on pense que celui qui a couru le moins vite, c'est celui qui sera accusé d'avoir jeté la pierre, par exemple. Et il ne s'agit pas de nier qu'il y ait des caillassages, par exemple, dont on parlait tout à l'heure dans le reportage. Donc ça, c'est une première chose. Évidemment, pour celui qui se fait prendre parce qu'il courait moins vite ou parce qu'il était plus petit, évidemment, la leçon est dur parce que c'est pas forcément lui et souvent c'est pas lui qui avait été à l'origine de cette altercation. Et puis il y a une deuxième chose qui est effectivement ce que j'ai appelé des expéditions punitives qui heureusement ne sont pas fréquentes mais qui sont suffisamment spectaculaires et traumatisantes pour les habitants pour mériter toute l'attention, c'est-à-dire qu'à la suite d'une altercation qui pourrait y avoir entre un policier ou des policiers et un ou des jeunes n'ayant pas pu les attraper, peuvent revenir à ce moment-là en nombre c'est toute la cage d'escalier ou toute la barre d'immeuble qui en quelque sorte prend collectivement et pour avoir ensuite eu l'occasion d'interroger des habitants, des associations de locataires, des gens qui essaient de défendre non seulement la sécurité et le bien-être dans leur quartier, mais essaient aussi de défendre le principe d'avoir une police se débarrasser, disons, des délinquants, c'est extrêmement éprouvant. Il faut s'imaginer ce que c'est que d'être de se sentir en permanence avec cette fragilité que la police puisse débarquer massivement de cette façon. Il est évident que tous les quartiers français, toutes les villes françaises, tous les habitants ne sont pas exposés de la même manière à ce type de punition.
Didier Fassin, vous parlez même à cet égard de rappel à l'ordre social plutôt que de maintien de l'ordre public. il y en a qui sont très souvent confrontés à ce problème et qui le disent avec d'autres mots. On va écouter la parole d'un éducateur enregistré par Olivier Gesbert en 2004 à Damary Lélis.
Ça ne changera pas tant que l'usage politique de la police sera le même, sera celui de faire la guerre aux pauvres et pas à la pauvreté. C'est l'usage politique de la police, ce n'est pas le rôle dans l'absolu de garde-fou dans une collectivité. On sait que toute collectivité a besoin de gens qui sont censés faire respecter un certain nombre de règles. Si ces règles, c'est préserver, protéger le faible contre la loi du plus fort, il n'y a pas de problème. Le rôle de la police, il est bienvenu. Mais dans la réalité, c'est tout l'inverse. Enfin, en tous les cas, c'est pas ce visage-là de la police qui s'est montré à nous quoi, depuis qu'on est minots. Quoi.
Didier Fassin, ce visage-là de la police que la plupart des gens souhaiteraient voir plus souvent, vous expliquez vous-même que le recrutement de ces brigades ou même des policiers qui sont affectés aux quartiers sensibles empêche justement une juste vision des rapports avec ces populations dites dangereuses. Ce sont des jeunes policiers souvent qui sont affectés là, qui viennent de province, qui viennent de la campagne et qui n'ont jamais vécu jouer au ballon, vous le dites, dans les bars, dans les cours des bars d'immeubles. Qui ont donc une vision un peu manichéenne et caricaturale, véhiculée aussi par le discours politique ambiant. Ils vont dans la jungle, en fait, et ils ont peur. Ils arrivent dans un quartier dangereux face à des populations qu'ils jugent être ennemies. Et donc, la réaction de ces policiers, en tout cas, elle est compréhensible. Ce qui est moins compréhensible, c'est qu'on y affecte des policiers aussi peu formés à cette tâche.
Alors d'abord, il faudrait effectivement souligner un point que le reportage montre bien. Il dit les polices et les policiers auxquels nous avons affaire. Et c'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire ces unités d'intervention qui sont de façon plus ou moins permanente à rôder, à patrouiller dans les quartiers, à faire ces contrôles sous la forme qui a été rappelée tout à l'heure. Mais bien sûr, il y a d'autres unités de la police qui font un autre travail, un travail d'enquête, y compris d'enquête sur les stupéfiants. Et donc, tout à l'heure, on parlait d'arrêter les dealers. Et le travail que j'ai fait ne porte pas du tout sur ces brigades des stupes, par exemple, mais qui, et bien sûr, font un travail de fond et très peu en contact du reste avec la population parce qu'ils ont des enquêtes. On peut parler aussi de police secours qui résout bien des problèmes d'habitants. Et du reste, un certain nombre de policiers que j'ai pu rencontrer et qui étaient à police secours me disaient eux-mêmes qu'ils aimaient bien faire ce travail un petit peu d'assistante sociale, me disaient-ils, et qu'en aucun cas, ils n'auraient voulu aller travailler dans une BAC, en tout cas dans celle qu'ils connaissaient, et parce que même si peut-être un peu d'aventure leur plaisait, certainement pas les conditions dans lesquelles ce métier était exercé. Donc certainement, faut-il bien comprendre que il ne s'agit pas de toute la police, et même ces jeunes-là n'ont pas affaire à toute la police, ils ont affaire qu'à un segment, et ce segment, ce sont ces unités d'intervention en tenue ou en civil. Et effectivement, une caractéristique de la France, c'est d'avoir un recrutement national de ces policiers, comme du reste de ces surveillants de prison et d'autres métiers, dans l'éducation nationale par exemple. On a un recrutement national. C'est différent de ce qu'on observe dans d'autres pays où la police est plus locale, recrutée localement dans la ville, l'agglomération, voire l'État. Et donc, a une certaine familiarité avec cette population, pas forcément avec les individus, mais avec le type de population dont il s'agit. Il se trouve qu'en France, ce recrutement national et, disons, les conditions sociologiques des recherches d'emploi font que c'est principalement, 80%, dans les zones, les policiers viennent principalement des zones rurales, et des villes petites et moyennes de province. Autrement dit, ils n'ont pas cette familiarité que je décrivais précédemment. Et par malchance, je dirais, eh bien, leur première affectation et toujours dans les quartiers considérés comme les plus difficiles. Donc, ils vont se trouver pratiquement du jour au lendemain confrontés à des populations qu'ils ne connaissent pas, qu'on leur a souvent présentées comme hostiles, dont ils n'ont vu que ce que parfois les médias ou leurs professeurs leur présentaient. Et donc, il y a cette difficulté ensuite à discriminer, mais dans un sens positif, à différencier ceux qui sont véritablement des délinquants et ceux qui, au fond, comme on le disait tout à l'heure, sont au pied d'un immeuble en train de discuter et ne font de mal à personne, tout simplement parce que les conditions dans lesquelles ils vivent leur permettent moins facilement que des jeunes des classes moyennes d'être chez eux et d'y inviter leurs amis.
Fassin, dans votre livre La force de l'ordre, vous soulignez à maintes reprises cette politique systématique d'humiliation qu'il y a envers les jeunes, envers les populations qui ne ressemblent pas à l'image typique de l'Européen. Il y a cette police particulière qui s'occupe des quartiers sensibles. Il y a aussi, ça revient à la police également, le rôle de vérifier les papiers des étrangers, de les renouveler ou de ne pas les renouveler. Bonsoir Judith Soussan.
Bonsoir Kathleen.
Vous êtes allée en plein milieu de la nuit voir cette politique à l'œuvre dans une des préfectures proches de Paris, à Bobigny. Et effectivement, on peut parler d'humiliation systématique.
Oui, c'est à mes yeux une autre forme de violence d'État qui s'exerce, une sorte de violence administrative. Alors c'est une situation qui est bien connue des associations et des militants qui soutiennent les étrangers, mais plutôt méconnue du reste de la population. Ça se passe tous les matins devant des préfectures d'Île-de-France et des grandes villes de province. Et effectivement, Bobigny a quand même une mauvaise réputation à cet égard. Alors j'y suis allée un matin de décembre, bien avant l'aube. Et quand je suis arrivée, il y avait là une foule déjà compacte. Des Camerounais, des Sri Lankais, des Algériens ou des Congolais, des hommes et des femmes de tous les âges, parfois nés en France il y a bien longtemps, parfois venus avec leurs enfants, leurs bébés. Et ils étaient expliquer tout cela parce que face à l'affluence, la réponse de la préfecture a été de mettre en place un système de tickets rationnés en amont de l'accueil. Donc en fait, une sorte de système de quotas. Alors devant la porte 1, on attend pour obtenir un formulaire de première demande de titre de séjour ou pour obtenir un rendez-vous en vue d'un renouvellement ou encore pour effectuer un simple changement d'adresse. Porte 2, on attend pour retirer les titres de séjour lorsqu'ils sont prêts. Porte 3, ce sont les demandeurs d'asile. À chaque fois, il y a des tickets rationnés et à chaque fois, donc, des files d'attente qui se forment dans la nuit. Alors effectivement, ce que j'ai vu, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais c'est déjà bien accablant. Bobigny, 4h30 du matin.
Bonjour, excusez-moi, la préfecture, c'est par là ? Ah, merci.
Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour, madame.
Ah, vous êtes journaliste ? Je croyais que vous voulez chercher la place. Il y a du cas de poste là. C'est un caméra caché que vous faites vos trucs là ?
Non, c'est la radio.
La radio.
Ah bon ? Pour parler de l'attente devant la préfecture.
C'est un peu grave quand même. Et voilà.
Ah bah écoutez, moi j'ai laissé mes deux enfants à la maison depuis 3h du matin que je suis là, juste pour un rendez-vous pour mon renouvellement. 3h du matin, j'ai deux enfants couchés à la maison parce qu'ils subissent des tickets pour avoir un numéro pour se présenter au guichet. Quand il y a trop de monde, on vous dit voilà, les tickets sont finis, rentrez chez vous alors que vous êtes là depuis 3h.
C'est ça qu'on ne comprend pas, pour prendre rendez-vous tu fais la queue et le jour de rendez-vous tu fais la queue aussi. Alors moi je suis une française et je fais la queue pour ma femme, en fait j'ai un gosse de 2 mois. Alors du coup, ça m'intéresse pas que ma femme vienne avec le gosse faire la queue. J'ai déjà fait pour mes parents. Là, je fais la queue le matin et eux viennent vers 7h. Moi, je pars au boulot. On n'y peut rien. Il faut suivre. En espérant qu'on passe. Moi, je demande du changement, quoi. Une organisation mieux, quoi. Mieux que ça.
Que ça change. Voilà. On a besoin de ça.
Vous, madame, ça fait combien de temps que vous êtes ici ?
10 ans. Normalement, quand vous avez un titre de séjour et qu'on voit que bon, dans 3 mois, cela doit être expiré, on vous envoie au moins une convocation chez vous. Mais on ne vous envoie pas de convocation. Vous venez, vous vous installez là dans le froid et tout. Et on tombe toujours malade pour venir ici. Donc, on en a marre. Voilà. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains.
Et là, tu vois le problème là ? C'est des formulaires. Tu fais la queue 8 heures pour une affaire d'une minute. On peut le mettre sur Internet. On peut le mettre sur une table. On prend et c'est fini.
Là, vous êtes en train de faire la queue pour retirer un formulaire, juste.
Voilà, pour retirer un formulaire, c'est tout. Une minute, et je fais la queue de 8 heures. Et en plus, des fois, je passe pas.
Merci. Et où ta place, chef ?
Il a pas de place, il est partout, lui.
Ma carte, elle est expirée depuis le 26 octobre. J'étais venu au mois de juillet, 3 mois avant que la carte expire. J'ai renvoyé tous les dossiers. Je suis venu le jour où ma carte était expirée. On m'a dit qu'il me manquait un document. J'ai rajouté le document qui me manquait, j'ai renvoyé encore par recommandé. J'ai attendu une semaine et je suis venu ici. On me dit que non, voilà, mon dossier n'est pas encore traité. Et là, je reviens pour la 3e fois. Mon patron me menace de me licencier parce que mon titre de séjour n'est pas à jour. Donc c'est pour ça que je vais encore essayer s'ils peuvent me donner ma main réceptée en attendant que ma carte soit prête. Parce que j'avais fait la demande depuis juillet. Donc c'est ça.
Bonne chance.
Merci.
Monsieur là, oui. Ses enfants là depuis 8 heures hier soir.
Moi, bonjour,
ici,
monsieur.
C'est 3 enfants. 8 heures ici, elle est arrivée. Moi, 14 mois, femme arrivée. Grand fille, petit garçon. Après,
il n'arrive même plus à parler, il regarde comme il tremble.
Il est là, ça c'est énorme.
Les enfants qui sont allongés sous les couvertures.
C'est lamentable de voir ça. C'est... Comme là, le monsieur avec ses enfants, là, c'est...
Obligatoire.
C'est dur, hein, franchement.
Vous, monsieur, vous les accompagnez ?
Non, moi je suis venu, moi, je suis venu pour ma mère, pour retirer le dossier à compléter. Ma mère, elle a 85 ans. Là, elle ne peut pas marcher, elle est diabétique, elle ne peut pas se déplacer. Donc je suis venu un mois pour repérer. J'ai vu comment ça se passe, donc j'ai fait comme eux. Hein. Je suis venu à 4h du matin, hein. Tout ça pour renouveler la carte de séjour à ma mère, qui est là depuis 1956. Ouais. Moi, nous, on est tous nés en France. Moi, j'ai resté français, je suis né à Blanménil à côté. Mais ma mère, elle est là depuis 1956 et elle a sa carte de séjour. Ça fait ma deuxième journée de travail que je perds. Je suis venu hier, j'ai pas pu passer et je reviens aujourd'hui.
Là, qui vient d'arriver, il passe devant là.
Déjà là.
Ah ben ouais, ça veut dire que là ça va, il n'est pas encore l'heure de se mettre en ligne. Donc quand on va s'aligner, vous allez voir, ça va bousculer dans tous les sens. Ah ouais, ça va bousculer.
6 heures. La foule s'épaissit dans la nuit, toujours noire.
T'as vu, regarde, là, ils sont en train de, t'es là, ils sont en train de vendre une place, là, t'as vu? Ils vendent une place à deux Chinois et son fils. De 17h, 18h, ils sont là, jusqu'à demain, 10h. C'est tous les jours, c'est comme ça. Il n'y a que ça, leur boulot. Ils n'ont pas d'autre chose. Là, il dit à son ami de sortir. Voilà. Son ami est sorti et la Chinoise va rentrer.
Voilà, donc un monsieur qui vient de sauter pour sortir de la queue.
Tu as vu ?
Là, c'est bon, là, c'est bon. Non, 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 hey, cousin, on n'est pas des cons, d'accord ? On n'est pas des cons. Moi, je suis là depuis à 23h. Ça fait plusieurs fois que vous avez fait ça. Ça fait plusieurs fois. Arrête. On est là depuis à 23h, nous.
Quoi, il va rentrer encore ? Il va rentrer des gens.
Comme là, il fait très froid. À la place, c'est 50 euros. Donc, c'est comme ça. Tout le monde l'accepte, en fait. C'est comme ça.
40, 50.
C'est comme la bourse ici.
Regarde tout ça. Et plus tard là, c'est encore pire. À l'hiver, c'est encore pire. Peut-être nous, on n'arrive même pas à passer. C'est pas possible.
Mais là, on le moi, je l'ai vu sauter, donc il ne pourra plus y rentrer.
Ah ben d'accord.
Voilà. Lui, il ne rentrera voilà. Plus. Ce n'est pas une autre personne, mais lui, c'est bon.
7h30. Ce matin, des militants sont là pour manifester leur soutien.
Pour réclamer des conditions d'accueil et de traitement des dossiers plus dignes. Il y en a assez de voir des files d'attente se former depuis la veille au soir, de passer des heures et des heures pour la moindre démarche. Et puis il y en a marre des titres précaires, il y en a marre des OQTF, il y en a marre de cette politique.
Ça y est, vous avez retrouvé votre bébé ?
Ouais, ça y est, j'ai retrouvé, oui.
Et votre épouse est venue aussi ?
Ouais, il fait la queue, là. Je vais laisser ma place.
Comment il s'appelle, le bébé ?
Youssef. Il a que deux mois. Merci, madame.
Bon courage pour la journée de travail.
Une France plus fraternelle, plus ouverte et surtout respectueuse des droits d'homme.
Bientôt, les portes s'ouvriront et chacun se pressera pour avoir son précieux ticket.
Là, bah ouais.
Merci Judith pour ce reportage. Didier Fassin, on a entendu « On n'est pas des animaux ». Ça aussi, vous l'avez entendu dans les cités.
La recherche que j'ai conduite sur la police fait partie d'un programme du Conseil européen de la recherche que j'anime, auquel participent une dizaine de jeunes chercheurs en sciences sociales. Et ce que nous essayons de comprendre, c'est la façon dont les institutions traitent leur public, et plus particulièrement les publics les plus fragiles, qu'il s'agisse des immigrés, des minorités, des milieux populaires. Et je crois qu'on a là, dans ce reportage, un remarquable exemple qui montre qu'il ne s'agit pas simplement d'une institution isolée, mais qu'il y a bien un ensemble qui représente une politique d'État. Et je crois que ce reportage, comme le travail que j'ai essayé de faire et que je continue avec mes collègues, essaie deux choses. Essaie de rendre visible ce qui n'est pas visible. Qui va à Bobigny la nuit pour observer ces gens qui attendent 8h, 10h pour obtenir un rendez-vous et de la même façon, qui va dans les cités pour regarder le travail quotidien de la police. Donc rendre visible ce qui ne l'est pas et en même temps permettre qu'un débat public puisse s'ouvrir sur ces questions, qu'une réflexion collective soit conduite sur la manière dont nous voulons vivre ensemble avec ces gens qui vivent avec nous, dont les enfants vont dans les écoles de nos enfants. Et je crois qu'il y a là quelque chose à réfléchir pour notre démocratie.
Encore faudrait-il, Didier Fassin, que le débat s'ouvre. Je le disais au début de cette émission, votre livre est sorti en octobre. Vous avez été reçu ici, sur cette radio. Quelques journaux rares ont fait des papiers, mais... Voilà, ceux qui devraient se sentir interpellés font profil bas.
je pense qu'il y a une volonté de ne pas réagir au livre de la part des autorités publiques. Néanmoins, je veux signaler que j'ai eu de la part de policiers, de syndicalistes et bien sûr de lecteurs des retours qui montrent que les analyses que je fais, les descriptions que je donne posent problème à un certain nombre de gens, y compris, et je crois que c'est très important, à l'intérieur même des forces de l'ordre, où une insatisfaction, je crois, se développe par rapport au rôle qu'on fait jouer aux policiers et qu'ils n'étaient pas prêts à jouer.
Merci infiniment Didier Fassin d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle que votre livre « La force de l'ordre, une anthropologie de la police des quartiers » est sorti aux éditions du Seuil. Merci à vous, à demain.